Bonjour Christophe Girard, merci de nous accorder cet échange avec Vénissieux Info. Vous êtes candidat à la mairie de Vénissieux pour le 22 mars. Vous êtes divers droite, vous êtes soutenu par l'UMP, l'UDI, le Modem, la société civile et Debout la France.
Le Parti chrétien démocrate.
Et le Parti chrétien démocrate. Quelle sera la première mesure, Christophe Girard, que vous allez mettre en place dès que vous êtes élu le 29 mars?
Disons que on en a sept en fait, hein, sept dossiers sur lesquels on va travailler en premier. Mais simplement, dans un premier temps, la chose la plus essentielle, c'est de remettre en route, j'allais dire, la municipalité, c'est-à-dire d'avoir une municipalité qui soit efficace. Aujourd'hui, on sait qu'on enregistre un taux de 20% d'absentéisme à la mairie de Vénissieux. En management, et je suis spécialiste du management, un taux d'absentéisme est en fait un indicateur très net du fait qu'il y a de la souffrance au travail, qu'il y a des gens ils sont pas bien sur leur travail. Et à Vénissieux, donc quand on dit ça, ça veut dire 20% d'absentéisme, c'est énorme, parce qu'on a 1350 salariés, donc ça veut dire que 20%, ça fait un énorme nombre. En plus, ça veut dire aussi que tous les autres qui viennent quand même travailler, ils viennent pas obligatoirement avec cœur à faire les choses. Pour moi, j'ai un principe en management qui est extrêmement simple et que je m'applique à moi-même, c'est que chaque soir, j'aime être fier de ce que j'ai fait dans ma journée. Et dans ces cas-là, le lendemain, et même au besoin de la nuit, on y pense encore, et le lendemain, on repart avec encore plus d'enthousiasme. Aujourd'hui, on a vraiment besoin de redémarrer ça, parce qu'en fait, c'est la base, puisque si vous voulez qu'on puisse faire du travail sur cette ville, tout notre programme ne pourra se faire qu'avec des salariés qui sont heureux et motivés pour le faire. Donc aujourd'hui, c'est clair qu'on travaillera sur cette dimension très vite. Alors qu'est-ce qui nuit aujourd'hui à ça? Eh bien, qu'est-ce qui conduit à cette démotivation, à cette souffrance au travail? Eh bien, deux axes, à mon avis, majeurs. Le premier, c'est la notion de passe-droit, de clientélisme, d'idéologie aussi, de fait qu'on n'oublie pas à la réalité, mais au fait de partir sur des idéologies, du sectarisme. Et donc là, il y a un énorme travail, c'est pas un énorme travail, simplement c'est que nous, il n'y aura plus de passe-droit, il n'y aura plus de clientélisme, puisque tout simplement, moi je n'ai rien promis à personne avant, et que tout ce qui aura été fait avant, et toutes les magouilles ou autres qui pourront être mis en lumière pour pouvoir essayer de faire chanter les uns et les autres, n'auront plus de valeur, puisque moi, j'en serai bien sûr aucunement responsable.
D'accord.
C'est sur le
personnel de la ville.
Oui.
Ensuite, comment on fait? Allez-y.
Pour finir, le deuxième aspect aussi de ça, c'est aussi le problème de l'organisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une ville qui est très désorganisée. On a des gens, pour avoir discuté avec un certain nombre de syndicats, pour avoir discuté même avec des chefs de service, on sait qu'aujourd'hui, il y a l'organisation même de la ville a été faite dans un principe de diviser pour mieux régner. Donc aujourd'hui, tout ça, c'est toute une. Donc il y a tous ces deux pans-là. Et avoir une municipalité efficace, ça sera le bon moyen de pouvoir, encore une fois, mettre en œuvre après notre programme pour pouvoir vraiment travailler. Alors ensuite, après, il y a des urgences. L'urgence, c'est bien sûr le problème de l'emploi. L'emploi, le développement économique. Et là, bon, déjà, on a deux actions majeures qui sont de mettre en place une cellule, ou on appelle ça une agence de développement économique.
Oui.
D'accord.
Et l'agora de l'emploi.
Et également une agora de l'emploi.
Qu'est-ce que c'est l'agora de l'emploi?
Alors, je vais venir. Le développement économique, simplement, ça, c'est une cellule de gens qui seront extrêmement, avec cette volonté réellement, de ramener des entreprises sur Vénissieux et de mettre au point tout ce qui peut faciliter. Donc, c'est un rôle de facilitateur. Donc, de travailler avec la métropole, parce qu'il y a une direction de développement économique à la métropole. Il y a aussi la même chose avec l'ADERLI qui est au niveau régional. Et donc tout ça, il faut travailler de concert, il faut aller chercher les entreprises, il faut aller pousser les dossiers, il faut aller, encore une fois, faciliter l'installation. Et quand on dit faciliter l'installation, ça peut aller jusque, par exemple, créer une entreprise qui a besoin d'embaucher des salariés, et bien de leur créer un module de formation spécifique, rien que pour eux. Et ça veut dire que c'est pas dans la compétence du maire faire de la formation. En revanche, dans la compétence du maire, dans la volonté du maire, c'est d'aller par exemple se battre auprès de la région en disant, ben voilà, moi j'ai tant d'emplois qui sont possibles, je veux créer une cellule de formation à tel métier, parce que c'est un métier un peu spécifique, je vais détacher du personnel d'une entreprise pour le faire, etc. On trouve les moyens, si on se bat, on y arrive. Voilà. J'ai repris Mme Picard dans un débat il n'y a pas longtemps, où elle disait, on attend les entreprises, non, on ne les attend pas, on va les chercher.
Qu'est-ce que vous pensez de la charte qui a été mise en place par la majorité sortante? La charte avec plusieurs entreprises, oui. On parle d'une vingtaine.
Oui. Bah, une vingtaine d'entreprises, déjà, c'est pas beaucoup. Puis deuxièmement, mettre des chartes, c'est bien. Le mieux, c'est d'agir. Encore une fois, les chartes, c'est des grands mots. Après, c'est d'agir. Il faut créer les choses. Et là, on rejoint la notion d'agora de l'emploi. Donc, l'agora, c'est quoi? En fait, c'est cette notion de maison de l'emploi, de la formation, qui était dans notre liste, dans notre programme en 2008 et qui a été après repris en 2014 par beaucoup, mais aujourd'hui, donc c'est cette dimension-là, c'est-à-dire d'avoir une mission locale qui soit relocalisée, qui soit mise à un endroit honnête, j'allais dire, et quand on dit honnête, c'est pas honnête, mais c'est qui respecte les jeunes et qui soit vraiment dans de bonnes conditions, c'est de tous les acteurs, en fait, de l'insertion puissent se retrouver dans un lieu unique, mais bien au-delà de ça, c'est aussi toute la dimension, et c'est pour ça qu'on a parlé d'agora, au sens de faire le rassemblement, c'est de pouvoir rencontrer, dans un premier temps, de recréer le tissu et les relations entre les entreprises du territoire. Il faut qu'ils se connaissent, il faut qu'ils travaillent ensemble et qu'ils sentent que la mairie est là pour eux, qu'elle va se battre pour eux. Et une fois qu'on aura créé ce réseau, eh bien après c'est de remettre ce réseau en lien avec les chercheurs d'emploi et les gens de l'insertion. Et donc à ce moment-là, ce qu'on sait bien qu'aujourd'hui pour trouver du travail, c'est plutôt le réseau qu'il faut, plutôt qu'autre chose. Donc en fait, il y a ça. Dans l'agora de l'emploi, il y a aussi une dimension à laquelle ça a toujours été un cheval de bataille dans ma vie qui est essentielle. C'est que quand on veut, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas obligatoirement de diplôme mais qui ont des compétences. Et aujourd'hui, il faut pouvoir valoriser ces compétences. Et chaque fois que j'ai fait du recrutement, j'ai toujours été très impressionné de voir, des CV qui ne reflétaient absolument pas les vraies qualités, les vraies compétences des gens. C'est-à-dire que si vous interviewez quelqu'un, vous faites un travail avec quelqu'un qui vous présente son CV, vous vous rendez compte qu'en fait, il y a beaucoup plus que ce qu'il a écrit. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de temps, on ne considère pas que telle activité ou telle autre était importante. Juste à titre d'illustration, pour dire ce que je suis en train de dire là, vous avez une personne qui a besoin de son père, qui est malade et qui est hospitalisé à domicile depuis 3 ans. Et bien, je peux vous dire qu'elle a une compétence incroyable dans un domaine qu'elle ne croit pas avoir, mais qu'elle a, qui est extraordinaire, c'est qu'elle sait énormément de choses sur toutes les problématiques de l'hospitalisation, sur le soin, sur le fait d'encourager, voilà. Et bien, tous ces éléments-là, c'est une vraie compétence, et les gens ils disent « Ah oui, mais j'ai pas de diplôme, j'en parle pas ». Voilà. Donc, encore une fois, on peut aller chercher ça, et ça c'est important, parce que si vous valorisez ça, que les gens sont confiants là-dedans, et que vous rencontrez des entreprises, et que c'est dans la rencontre que ça se passe, et bien à ce moment-là, il y a des titres qui peuvent se faire, et on peut réussir à faire bouger les choses. Entre autres, c'est un exemple. Hein.
Pour un tout autre sujet, sur la sécurité par exemple, beaucoup de candidats, enfin certains candidats prônent d'armer la police municipale.
Oui. Alors, sur ce sujet-là, moi, je tiens quand même à dire, moi, sur mon programme, c'est le chapitre 10 sur 11. Pourquoi ? Parce que la sécurité est un sujet très important, mais en fait, c'est avant tout une conséquence. C'est-à-dire qu'en fait, c'est parce qu'on a une population qui est prise au sérieux, parce qu'on a des jeunes qui sont dans des associations qu'on respecte et qu'on n'est pas dans les passe-droits et tout ce qu'on veut, etc., qu'on a une vraie dynamique de la ville, etc., des commerces de proximité qui se tiennent, etc. Tout ça contribue, encore une fois, à la sécurité. Donc c'est très important de prendre en compte cette dimension-là. Je vais répondre à votre question, ne vous inquiétez pas, je réponds à la question. Mais derrière, après, effectivement, je pense que ça, c'est un premier pan. Et deuxième pan par rapport à la sécurité, c'est d'avoir une police municipale qui soit ferme, qui soit une police municipale de service, c'est-à-dire qui soit vraiment avec cette proximité, mais de service à la population, tout en restant, c'est ni des cow-boys ni des grands frères. Voilà. Par rapport à ça, effectivement, je pense aujourd'hui qu'à la fin du processus, c'est-à-dire après une dimension d'avoir bien créé l'état d'esprit de la police municipale, après avoir travaillé sur la formation, sur la compétence, etc., effectivement, on en viendra certainement à l'armement de la police, tout simplement parce que, encore une fois, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est ni des cow-boys ni des grands frères, mais il faut que ces gens-là puissent vraiment vivre de...
Et concernant le marché parallèle, vous avez une mesure que vous appliquerez ?
Le marché parallèle, c'est une question de volonté. C'est-à-dire que si réellement on s'y colle et qu'on traite le sujet, je peux dire que oui, ça va avancer. C'est comme tous les sujets. On sait bien que dans le 7e arrondissement, ça a été réglé. Ici,
mais est-ce que vous ferez comme Mme Picard? Vous attendrez
non,
que le préfet
pas,
donne plus
de
moyens?
Non, mais je me bats. D'abord, j'attends pas. Je vais les chercher s'il y a besoin. Et deuxièmement, on mettra en place, encore une fois, il y a une volonté à mettre en place. Et on a une police municipale qu'on étoffera aussi, puisqu'elle est aujourd'hui insuffisamment nombreuse, tout simplement par rapport au ratio de la région. Donc aujourd'hui, on aura une augmentation du nombre de policiers municipaux. On aura aussi une augmentation de la qualité et de la... Encore une fois, avec des directives, avec une volonté. Cette volonté, elle sera notamment parce que je prendrai moi-même en charge, en tant que premier magistrat, le rôle de responsable de la police municipale, et parce que je tiens vraiment à ce que cette police municipale soit dans un esprit, encore une fois, de service et respecté.
Donc comme Mme Picard, vous prendrez la délégation de la sécurité?
Oui, non, mais pas comme Mme Picard, parce que Mme Picard, elle l'a prise, elle n'en a rien fait. Donc, voilà.
Sur le logement, c'est une question importante qui touche les Vénitiens. Vous parlez d'équité dans les commissions d'attribution avec un principe de préférence des Vénitiens. Alors je voulais revenir sur la Sacrovive, 1700 logements, c'est une SEM qui est dirigée par la ville à 75%. Qu'est-ce que vous allez faire de la Sacrovive? Est-ce que vous allez la vendre?
Non, alors c'est beaucoup trop tôt pour pouvoir prendre une décision de cette nature. Moi aujourd'hui, je pense qu'il y a déjà une première chose à faire, c'est l'état des lieux du patrimoine. Aujourd'hui, j'ai des retours très inquiétants sur des bâtiments entiers où vous avez tout simplement des infiltrations d'eau qui partent du plafond jusqu'au, enfin du toit, enfin du toit jusqu'au rez-de-chaussée. Donc ça veut dire que même les travaux minimums, c'est-à-dire les travaux nécessaires à faire que les choses ne s'abîment pas, aujourd'hui sont complètement sont pas suivis. Donc il faut faire un état du patrimoine. Il faut voir où est-ce qu'on en est. Il y a aussi, on sait qu'on a tous ces rapports, le rapport de la Milos, mission interministérielle du logement social. On a le rapport de la Chambre régionale des comptes qui montre tout un ensemble de dysfonctionnements extrêmement graves où on a soit par incompétence perdu de l'argent pour rien, c'est-à-dire des TVA qui n'ont pas été récupérés par exemple. On a des histoires pas très claires en termes, on sait très bien avec l'histoire des appels d'offres qui ont été truqués, etc. C'est écrit noir sur blanc. Donc je veux dire aujourd'hui c'est écrit noir sur blanc qu'on a, on a déjoué en fait l'appel d'offres européen pour faire ça dans un petit journal du Beaujolais. Bon, tous ces éléments-là, il faut qu'on mette tout ça à plat. Bon, ça passe aussi parce que j'ai commencé de dire en termes d'efficacité municipale, on a la même chose au niveau d'efficacité de la direction de la Sacrovive, c'est-à-dire qu'il faut arrêter les passe-droits, arrêter les copinages, mettre des gens qui sont en compétence, qui sont prêts à se battre et remettre encore une fois, aujourd'hui c'est un outil.
Vous remettre à plat quoi.
Ben oui, parce qu'aujourd'hui la Sacrovive est un outil de pouvoir faire des passe-droits pour placer les copains et les machins. Et ben, ça peut pas
ça,
fonctionner.
Ça concerne la Sacrovive. Mais au niveau des autres bailleurs sociaux. Au parc du Rhône, au parc du Grand Lyon, comment une municipalité elle intervient sur les commissions d'attribution? Est-ce que ça se fait déjà? Je pense qu'il y a quelqu'un.
Oui, mais il y a une commission d'attribution qui joue son rôle.
Parce que là, vous parlez de préférence des Vénitiens. Comment on met ça en place? Ça veut dire que vous voudrez que les Vénitiens soit prioritaire sur le logement à Vénissieux, sur le logement social.
Bien sûr, parce que pourquoi, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est qu'on est en train de se faire. On nous envoie. De toute la région, de tout le coin, tous les gens qui ont des difficultés. Pourquoi on les prend chez nous? Tout simplement parce que ça rentre dans la logique des gens au pouvoir aujourd'hui qui ont tout intérêt à ce que plus il y a de misère, plus on est communiste et plus ça tourne sur soi-même. Et or aujourd'hui, cette demande d'ailleurs, elle ne vient pas des beaux quartiers, elle vient des quartiers entre guillemets, je ne sais pas comment les qualifier, difficile ou ce qu'on veut, on a des gens qui nous disent mais on n'en peut plus, il faut aujourd'hui, il faut de la mixité sociale, il faut avancer, il faut sortir, on ne va pas s'enfermer les uns, donc il faut arrêter avec ça et priorité aux Vénitiens, parce que du coup, après sur tous ces sujets-là, il y a plein de choses, vous avez des problèmes de rotation, quand vous avez quelqu'un qui depuis 5 ans, une dame qui vous demande d'avoir un appartement plus petit, et qui n'arrive pas à l'avoir tout simplement parce qu'elle avait un mari des enfants et qu'aujourd'hui on lui refuse, et à côté de ça vous avez un père de famille qui a une famille qui s'agrandit et qui demande un plus grand, simplement ce qu'il faut c'est se remonter les manches et puis faire la relation entre la personne qui le demande depuis 3 ou 5 ans, on la libère d'un loyer trop cher et on a un autre qui est heureux à côté, mais pour ça il faut travailler, il faut vouloir, c'est tout.
D'accord. On arrive au terme du délai.
Juste un mot peut-être sur la fiscalité, parce que vous parlez de taxation idéologique, à quoi vous pensez?
Ah bah, tout simplement parce que aujourd'hui, si vous voulez, on voit, c'est tout simple. Vous avez le top 5 des impôts dans la région, dans le département, pardon. Et bien dans le top 5, il y a 4 villes communistes et une ville socialiste. Voilà. Donc c'est que si c'est pas lié à l'idéologie, j'aimerais bien savoir à quoi c'est lié.
Merci Christophe Girard.